Longtemps éclipsée par le changement climatique, la sixième extinction de masse fait aujourd'hui la une. Plus d'une semaine sans une nouvelle du fond de l'extinction. Cette réalité se traduit dans des mouvements comme Extinction Rebellion, qui, outre son nom, a organisé des dive-in, ces actions où les manifestants font les morts au musée. Donc, ces actions ont été organisées au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres et de Paris, et ce matin à l'église de Saint-Merry. Elles se manifestent aussi dans les rassemblements de peuples autochtones du Brésil, qui se battent pour protéger leur mode de vie et leur forêt contre les politiques de Javier Bolsonaro. Ou tout simplement quand les médias internationaux saluent la survie des abeilles qui habitaient les toits de Notre-Dame. C'est dans ce contexte qu'après-demain débutera à Paris la plénière de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. L'équivalent pour la biodiversité du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Cette plénière réunira pendant une semaine des experts mondiaux de la biodiversité, des représentants des pays et de la société civile. Elle se terminera sur l'adoption d'un rapport sur l'état de la biodiversité de notre planète. Et ses conclusions promettent d'être des plus sévères. C'est à l'occasion de ce grand rendez-vous scientifique et diplomatique qu'avec Clémence Seurat de la Gaîté Lyrique, nous avons souhaité vous convier à réfléchir tout au long de cette journée sur notre rapport au vivant. Et quand je dis au vivant, je parle au pluriel. Si pendant longtemps, on n'a pas eu de vision globale de la disparition des espèces, que l'on jaugeait au coup par coup, de manière morcelée, il existe aujourd'hui un consensus pour reconnaître que nous sommes en train de vivre la sixième extinction de masse connue par notre planète. Des études de terrain menées sur plusieurs décennies, des images satellitaires de nouvelles technologies comme l'ADN environnemental ou le recours au big data montrent que les espèces disparaissent et que les écosystèmes sont dégradés ou détruits à un rythme élevé. Ainsi, les espèces disparaîtraient aujourd'hui à un taux 1000 fois supérieur à la normale. Voici quelques signaux de l'extinction. Une étude allemande a établi qu'en Europe, la biomasse des insectes en milieu rural a chuté de plus de 75% en 30 ans. Cet effondrement serait dû à la pollution latente de ces milieux par l'utilisation des produits phytosanitaires. Batrachochytrium dendrobatidis, j'ai réussi à le dire, un champignon a profité de la mondialisation pour quitter l'Asie. Il décime les grenouilles à l'échelle planétaire. Ce sont 501 espèces qui ont disparu, plus de 6% des espèces connues. À Paris, la population de moineaux a diminué de 75% entre 2003 et 2016. Le front de déforestation des forêts primaires s'étend de jour en jour. Après l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, c'est aujourd'hui le bassin du Congo. Une superficie équivalente à celle du Nicaragua a été défrichée l'an dernier. Imaginez, quand un entomologiste a souhaité connaître la biodiversité d'un seul arbre de la forêt tropicale humide, il a découvert que 900 espèces différentes d'insectes y résidaient. Imaginez, les forêts d'Amérique du Sud influencent le climat jusqu'au Canada. De nouvelles espèces sont décrites en permanence, mais de nombreuses espèces s'éteignent sans même qu'on ait pu les connaître. Des extinctions silencieuses. Le revers de ces extinctions se traduit par une uniformisation du vivant. Parmi les mammifères, 96% de la biomasse mondiale est constituée d'animaux élevés pour l'agriculture. Certains suggèrent que le marqueur le plus saillant de l'Anthropocène est le poulet. C'est 23 milliards de gallinacés produits par l'agriculture qui constituent la plus importante population de vertébrés sur notre planète. Le géologue Jan Saljasiewicz suggère que leurs os deviendront sans doute des fossiles de ce temps, où les humains régnaient sur la planète. Des études ont montré que là où la biodiversité disparaît, les cultures humaines, les usages et les langues disparaissent elles aussi. Partant de la grande extinction du Crétacé tertiaire qui a entraîné la disparition des dinosaures, des chercheurs ont suggéré qu'il faudrait plus de 10 millions d'années à notre planète pour retrouver un niveau de diversité des espèces équivalent à celui qui a précédé la phase d'extinction que nous vivons actuellement. Les raisons de cet effondrement vertigineux sont multiples. La destruction et la dégradation des habitats, la surexploitation des ressources, le commerce illégal de certaines espèces, les pollutions, les espèces envahissantes et, bien entendu, le changement climatique. Suivant les écosystèmes, suivant les espèces, l'un de ces facteurs peut être prépondérant, mais une caractéristique les lie tous, il résulte de nos activités. Nous drainons les zones humides, nous payons les civelles ou la corne de rhinocéros à prix d'or, nos villes s'étendent à perte de vue et nos autoroutes fractionnent les forêts. Nous fauchons les talus pour que ce soit bien propre. Les rivières sont aménagées pour livrer le passage aux bateaux de marchandises. Nous combattons l'herbe intruse à coups d'armes chimiques. Nous mangeons le bœuf et le poulet. Pour répondre à la disparition de la biodiversité, des mécanismes institutionnels ont été mis en place. On a créé des aires protégées, des listes rouges des espèces en danger, des statuts, des interdictions, des compensations, des restaurations, réguler la chasse, l'exploitation ou le commerce de certaines espèces. Aujourd'hui, on tente également de donner une valeur à la biodiversité avec des approches de marché ou par les services écosystémiques qui tentent d'attribuer une valeur monétaire ou pas, ou bien aux biens et services rendus par la nature. La régulation des crues par les zones humides est considérée comme un service écosystémique, comme la production de bois par les forêts ou la pollinisation des cultures. La biodiversité devient utile. L'ensemble de ces approches se traduit par des politiques, des lois, des règlements, des traités internationaux. Au niveau international, on pense notamment à la Convention sur la diversité biologique, adoptée en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio, ou à la CITES, qui régule le commerce des espèces. Certaines conventions sont spécialisées, comme la Convention de Ramsar pour la protection des zones humides. Des conventions dont l'efficacité repose sur le bon vouloir des États, et qui, le plus souvent, ne pèsent pas lourd face aux accords de commerce. Au niveau national et européen, il existe tout un maillage de lois et de régulations plus ou moins mises en œuvre, plus ou moins respectées. Depuis l'an dernier, en France, la France s'est dotée d'une agence française pour la biodiversité. Aujourd'hui, force est de constater que, même si on peut dénombrer certaines victoires, comme par exemple le retour du vautour fauve dans notre pays, le succès de certaines aires protégées, la tendance est à une accélération de la disparition de la biodiversité. Le rapport de l'IBES le confirmera probablement dans une grosse semaine. La conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique, qui se tiendra en 2020 pour faire le bilan des objectifs d'Aichi, objectifs qui devaient servir de guide pour inverser la tendance de l'extinction entre 2011 et les tendances de l'extinction entre 2011 et 2020, devrait montrer que ces objectifs n'ont pas été atteints, loin de là. Il faudra en tirer les conséquences. La sixième extinction de masse et notre incapacité à y faire face interrogent de manière criante nos rapports au vivant. Elle nous oblige à le repenser. De nouvelles propositions trouvent une légitimité. Dans ses travaux, la Convention sur la diversité biologique prend en compte les savoirs autochtones. Elle tente de leur donner une place dans la fabrique des politiques qu'elle produit. De plus en plus souvent, la gestion et la protection des écosystèmes se voit confiée aux communautés locales. La question des communs, dont la gestion serait étendue aux non-humains, pardon Samir, est elle aussi émergente. La justice accorde la personnalité aux rivières et aux montagnes, jusqu'à la recherche qui s'inspire des savoirs traditionnels pour comprendre et conserver les espèces et les écosystèmes, et repenser notre place avec, par exemple, l'anthropologie au-delà de l'humain proposée par Eduardo Cône. On invente aussi de nouvelles manières de lire notre monde, comme le propose Anat Singh. L'humain devient acteur des flux de relations, au même titre que l'arbre, que le sol et que le champignon. Pour emprunter l'expression d'Alessandro Pinocchi, la recomposition des mondes est en cours. Peut-être nous permettra-t-elle d'avoir une meilleure appréhension du désastre et de la manière dont on pourrait y répondre. Elle passe par une interrogation de notre rapport au vivant, comme le propose Isabelle Stengers, par une réinvention de notre vie sur les territoires, comme le montrent les projets de Chimère Diao, et les propositions de Sarah Vanuxem, par l'expérimentation de nouvelles manières de cohabiter qu'Alessandro Pinocchi a pu vivre au cœur de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qu'il décrit dans La recomposition des mondes. Ce sont ces pistes que nous nous proposons d'explorer aujourd'hui.
Merci Pauline. Juste un petit mot pour vous dire comment se déroule la table ronde.